En attendant James Baldwin.
Donc voilà, on est avec Isabelle Couton et on est là pour parler de la période, je pense que c'était en 2015, quand la médiathèque qui était là, un lycée hôtelier, je ne sais pas comment il s'appelait, quel était son nom.
Le lycée Jean Carré.
Qui était occupé par les migrants de la Chapelle.
Oui, c'est ça. C'était en fait des centaines de migrants, essentiellement du Soudan, d'Érythrée et d'Afghanistan, qui, au départ, avaient organisé un peu des campements de rue sous le métro La Chapelle et qui, progressivement, ont été accompagnés par des habitants du 18e arrondissement et puis des militants à travers un collectif de soutien, un collectif solidaire. Et c'est ce collectif qui a organisé, finalement, tous ces campements de rue étaient évacués les uns après les autres, parfois avec de fortes violences policières. Et donc, à l'été 2015, au milieu de l'été, l'ancien lycée Jean Carré, qui était désaffecté, a été occupé, donc avec l'aide de ses militants. Au départ, il devait être une centaine de migrants. Et puis, au fur et à mesure de l'été, de plus en plus nombreux. Et c'est devenu le point d'arrivée des migrants sur Paris, en fait. Et ça s'est étalé sur 3 mois. Et il me semble qu'au moment de l'évacuation du lycée, ils étaient près de 1000.
Comment tu as découvert cet événement ?
Alors d'abord, au cours de l'été, comme d'autres habitants du quartier, par les médias et notamment à travers les réseaux sociaux pour ma part, parce que moi j'avais des collègues qui étaient investis dans le collectif La Chapelle, justement, et donc je suivais un peu ce qui se passait autour de ce collectif, j'avais signé des textes de soutien.
Collègues de sociologie.
Sociologie, anthropologie, dans mon laboratoire de recherche.
Et eux, ils étaient là en tant que personne militant engagée ou une personne observateur ?
Ils étaient à la fois habitants du 18e arrondissement, donc c'était des voisins là-bas, des campements de rue, et puis des gens assez engagés aussi sur ces questions-là par ailleurs.
D'accord. Mais ça les intéressait aussi au niveau sociologie.
Ils n'ont pas fait de recherche comme moi sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils étaient engagés comme citoyens.
Et ta première réaction, c'était comment ? Je dois dire que tu habites dans le quartier.
Voilà, c'est mon quartier. Et surtout, ce qui se passait, c'est que cette année-là, mon fils rentrait au collège. C'était le collège Budé, qui est juste en face du bâtiment occupé. Et c'est pour ça que moi, au départ, j'ai ressenti plutôt de l'inquiétude et même un peu de colère. De l'inquiétude parce que je savais que ce bâtiment faisait face au collège du quartier. Je savais que ce quartier était un quartier assez fragile, avec des problématiques de précarité, de délinquance. Donc ça m'inquiétait que cet événement ait lieu à cet endroit-là, au milieu des tours, au milieu des HLM. Donc j'étais inquiète de ce point de vue-là, un peu en colère aussi, en me disant mais finalement ces militants, ils se préoccupent pas de l'endroit, du quartier où ils amènent ces problématiques sociales difficiles, et puis aussi la ville de Paris finalement tolère un squat de centaines de migrants en face d'un collège parce que c'est un quartier défavorisé comme la place des Fêtes finalement. Et donc c'était un sentiment aussi de colère envers les pouvoirs publics que j'ai ressenti dans un premier temps. Je savais qu'il y avait un projet de médiathèque. Mais bon, j'ai pas ressenti l'occupation de manière aussi violente que les gens qui étaient engagés depuis des années. Bah, ils se sont sentis trahis et abandonnés. Et effectivement, beaucoup de gens qui étaient engagés dans le quartier, que ce soit toujours autour de ce projet de médiathèque ou autour de la lutte contre la stigmatisation des établissements publics scolaires, tous ces gens-là ont eu le sentiment que finalement tout le travail qu'ils avaient fait pendant des années était complètement balayé avec cette décision de la ville de faire un refuge pour les réfugiés en plein milieu du quartier. Le jour de la rentrée scolaire, j'ai accompagné mon fils pour sa rentrée en 6e. Je suis rentrée dans le hall et il y avait tout un ensemble d'informations sur l'organisation du lieu, avec des grands plannings, avec des propositions d'activités bénévoles, d'aide aux migrants. Il y avait aussi des lieux pour déposer des dons alimentaires ou des dons de produits d'hygiène, de choses comme ça. Et donc, je suis rentrée, j'ai vu tous ces panneaux, toutes ces informations. Donc, je suis repassée pour déposer, comme pas mal d'habitants du quartier, des produits d'hygiène, des paquets de riz, des choses comme ça. Ça a été ma première approche. Mais moi, je ne suis pas rentrée dans le squat à ce moment-là. Puis, ce n'était pas toujours rassurant. Hein. C'était beaucoup d'hommes. Il y avait parfois des bagarres. Moi, j'ai décidé d'en faire une recherche, finalement, au départ, pas tant sur les migrants eux-mêmes, mais que sur la manière dont le quartier allait vivre cet événement et ce que ça allait produire localement. On ne savait pas au départ ce qui allait se passer aussi pour les habitants. Donc j'ai commencé par faire un travail d'observation, de réunion de quartier, de rencontre avec des habitants qui commençaient un peu à s'organiser en soutien aux migrants, de suivre aussi un peu dans les médias et sur les réseaux sociaux toutes les actions qui étaient menées autour de ce squat pour rendre compte de cette mobilisation assez hétéroclite dans une perspective, pour le coup, de sciences sociales, de sociologie, de sciences politiques. D'accord. Ça, c'était le premier temps. Et dans un deuxième temps, quand j'ai appris que le squat allait être évacué, je me suis dit que c'était compliqué quand même de les laisser partir sans les avoir rencontrés. Aussi, je me suis dit que si je m'intéressais à la manière dont le quartier vivait l'événement, il fallait que je rencontre les représentants des migrants qui avaient été en lien avec les habitants. Donc ma première entrée dans ce squat, ça a été pour rencontrer les leaders, les délégués des migrants à l'intérieur du lieu. Et donc j'ai commencé comme ça par rencontrer celui qui avait le rôle le plus important dans ce lieu, qui était le représentant des Afghans. Mais comme il parlait vraiment beaucoup de langues, parce qu'il avait vécu aussi... il avait travaillé au Koweït, je crois. Il parlait aussi... Enfin, voilà, de toute façon, il parlait l'anglais, plusieurs langues d'Afghanistan. Et il parlait aussi un peu l'arabe. Donc c'était le seul qui, quasiment, oui, à l'intérieur du squat, pouvait parler avec toutes les communautés. Et donc je me suis présentée à lui comme une habitante, comme une voisine, qui aussi faisait une recherche sur le quartier, en fait. Enfin, sur le quartier dans la relation aux migrants. J'ai pas caché, en fait, que je faisais ça. Mais après, à l'intérieur du lieu, j'ai aussi rencontré des jeunes étudiantes qui venaient pour donner des cours de français. Et puis par ailleurs, moi j'encadre aussi des étudiants, donc je retrouvais des étudiants d'institutions dans lesquelles moi je suis aussi amenée à travailler. Et puis finalement, ce sont ces jeunes étudiantes qui m'ont ramenée dans le lieu après pour assister à leurs cours. Et puis petit à petit, j'ai un peu perdu moi mes repères, je me suis retrouvée finalement embarquée dans cette histoire, à finalement moi aussi donner des cours de français, moi aussi aider à remplir des papiers, et puis à rencontrer vraiment.
Un truc qui m'intéresse, c'est quel était ton rapport avec les collectifs qui entouraient un peu les réfugiés.
Le collectif La Chapelle, c'était le plus important, et c'était un collectif constitué plutôt de gens extérieurs au quartier. En partie des habitants du 18e arrondissement et des militants, certains qui étaient des militants de la cause des sans-papiers, depuis déjà l'occupation aussi de l'église Saint-Bernard, c'était la fin des années 90, donc des gens qui avaient un long parcours en fait, d'engagement auprès des sans-papiers, qui pouvaient être dans ce collectif, avec différentes formes aussi, avec des gens plus ou moins engagés politiquement, de différentes générations. C'était assez hétéroclite, mais donc c'était plutôt pas des habitants du quartier, ce collectif-là. Moi, je l'ai observé, j'ai suivi un peu, je suis allée dans des réunions, j'ai lu des choses qu'ils ont écrites, mais je ne les ai pas vraiment rencontrées en réalité. Je les ai rencontrés après, quelques-uns, pour finaliser mon enquête, une fois que le squat était évacué, pour revenir un peu avec certains d'entre eux sur cette histoire. Mais au moment de l'occupation, je n'ai pas été vraiment en lien avec eux. Et par contre, j'ai été plus en lien avec certaines voisines qui habitaient justement les immeubles tout proche du squat, et notamment parce qu'une de mes amies était très impliquée dans ce groupe de voisins qui s'appelait, lui, Solidarité Migrants Place des Fêtes, et qui avait un rapport un peu différent au lieu. Parce que le collectif La Chapelle, il était pour une cause générale, qui était la cause des réfugiés de manière générale, en Europe même.
Il faut dire aussi, je pense qu'il y avait un sentiment à Paris, ou plutôt en France, on était choqués d'avoir vu la façon dont c'était vidé l'occupation de La Chapelle. Ça a choqué beaucoup de monde, je pense, les CRS qui brûlaient les tentes, il y avait beaucoup de violence, des gaz lacrymogènes, ils mettaient du javel partout et tout ça. Et je pense que, est-ce que les collectifs, ils s'emparaient un peu de ce choc médiatique, et puis ils utiliser, c'est peut-être un mot un peu violent, mais ils utilisent ces réfugiés du lycée Jean Carré comme emblème, peut-être.
Oui, comme emblème pour faire avancer cette cause qui était celle d'un meilleur accueil des exilés en France et en Europe. C'était vraiment devenu un peu le symbole de ce combat. Et pour le voisinage, il y avait à la fois pour le voisinage qui s'est investi autour des migrants, il y avait à la fois une sensibilité à cette cause-là, et en même temps une inquiétude pour le quartier lui-même et puis pour les migrants, pour les conditions de vie et de sécurité des migrants à l'intérieur du squat. Donc il y avait pour le voisinage, il y avait ce souci qu'il n'y ait pas de drame, ni à l'intérieur du squat, ni entre les migrants et les habitants, et que le quartier ne sorte pas trop abîmé de cet épisode. Oui, c'est sûr que ça, c'était intéressant à observer pour le coup sociologiquement aussi. C'est-à-dire que ça a créé cet événement, ça a créé de l'engagement. Et un engagement qui a perduré après le départ des migrants. En fait, cet engagement avec l'idée, pour les gens qui s'étaient investis au départ en tant que simples voisins, mais aussi avec une inquiétude, hein, finalement, l'engagement, il était à la fois pour ces migrants qui étaient des voisins temporaires, mais c'était aussi un engagement pour le quartier. Et les voisins qui étaient impliqués ont voulu continuer de s'engager pour le quartier, en sachant que c'est un quartier effectivement fragile, avec beaucoup de précarité, puis surtout aussi, oui, beaucoup déjà d'immigrés, de migrants en fait. Il y a beaucoup d'immigrés dans ce quartier-là. Et donc c'était une manière aussi de continuer à s'engager aussi pour cette cause, en se disant, s'occuper de notre quartier, c'est aussi s'occuper de toutes ces populations multiples qui cohabitent ici.
Est-ce que tu es resté en contact avec certains ou ils ont complètement disparu dans la nature de la France ou ils sont en Angleterre ou ils sont retournés chez eux? Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Alors moi, je suis restée en contact avec quelques Afghans avec lesquels je m'étais vraiment liée, d'ailleurs au-delà de l'occupation que j'ai revue après, que j'avais accueilli chez moi. Et pour ce groupe-là, j'ai effectivement des nouvelles. Donc, dans ce groupe d'Afghans dont certains avaient été traducteurs pour l'armée américaine, il y en a un qui est aux États-Unis aujourd'hui, deux autres qui sont en Île-de-France, dont l'un et qui ont pu faire venir. L'un d'eux a fait venir déjà sa femme et ses enfants, et l'autre est en train de les faire venir. Mais bon, plusieurs années après, hein, c'est récent. Un autre est parti s'installer, et eux sont traducteurs dans un centre de santé mentale pour exilés. Un autre est parti s'installer dans le sud de la France. C'est quelqu'un qui connaissait déjà bien l'Europe, qui avait été en Norvège avant d'être expulsé puis d'être revenu. Donc lui, il trouvait que c'était dur la vie en Île-de-France. Il est parti au soleil et il a ouvert un commerce de bijoux afghans dans un premier temps. Il a pu faire venir aussi sa femme, son petit garçon. Il a eu une autre petite fille et je crois un autre petit garçon depuis. Et puis le leader des Afghans, celui qui était aussi polyglotte, lui, il est aussi toujours ici. Il a travaillé beaucoup pour l'OFI. Alors, je ne sais pas exactement où, mais à la fois dans un travail de traduction et d'accueil et de formation aussi, de cours en fait qui sont adressés autour de qu'est-ce que c'est que vivre en France, des choses comme ça. Donc voilà, il s'est passionné aussi pour l'histoire de France. Parce que voilà, il enseigne aussi toutes ces choses-là. Il s'est intéressé à ce que c'est que la laïcité. À un moment, il était fasciné par Napoléon. Et donc j'ai un petit peu des nouvelles comme ça de temps en temps des uns et des autres. C'est vrai que ce moment-là était un moment qui, sur le plan émotionnel, était très fort en fait. C'était très étrange. Ce qui s'est passé dans ces rencontres. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme quelque chose qui m'a surpris moi-même de m'investir comme ça et de me retrouver embarquée dans cette histoire. Je n'avais pas prévu d'aller si loin. On a le sentiment que ça a laissé des traces dans la vie un peu de tous ceux et celles qui se sont impliqués à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre. Et parmi les petites étudiantes de l'époque, moi, il y en a plusieurs avec lesquelles aussi je suis toujours en relation, pour qui ça a été des éléments de bifurcation dans leur vie.
Ouais.
Il y en a une qui ensuite est partie s'engager. Enfin, qui a déjà appris le pachtou à l'INALCO, qui ensuite est parti en Grèce pour accueillir dans des associations d'accueil de migrants, qui ensuite est parti en Afghanistan, qui depuis a fait un documentaire radio sur les femmes afghanes, qui maintenant vient de s'inscrire en thèse, et en plus je réalise qu'elle est dans mon laboratoire de recherche. Je ne savais pas.
Merci beaucoup, Isabelle.
De rien, il va falloir couper.
Et une chose que j'ai oublié de demander, c'est comment c'était pour ton fils, finalement, à la fois le jour de la rentrée et aussi les mois qui suivaient l'occupation.
Lui, il était inquiet au départ, hein, parce qu'il se disait, mais ces hommes, qu'est-ce qu'ils me disent? Enfin voilà, que ce ne sont pas des caïds, justement. Il avait peur, il ne savait pas qui étaient ces gens-là. Donc il avait peur de ça. Et quand j'avais expliqué que non, c'était des exilés qui avaient vécu des choses difficiles, qui n'avaient pas de lieu où vivre. Il m'a dit, mais justement, s'ils ont vécu des choses difficiles et qu'ils ont vécu des violences, bah, peut-être que maintenant, eux aussi, ils sont devenus violents. Il m'avait parlé de ces inquiétudes-là. Donc, j'avais essayé de rassurer comme font les parents. Et puis après, au fur et à mesure du temps, bah, il en a rencontré certains à la maison. Donc, il s'est lié. Donc, ça, voilà, ça fait aussi tomber des peurs. Mais par contre, il a vécu, comme les autres collégiens, le moment où il y a eu des grosses violences, quelques jours avant l'occupation, et où il a fallu mettre les enfants à l'abri parce qu'ils étaient dans la cour et qu'il y avait il y avait des pierres qui passaient par-dessus le grillage, en fait, des choses comme ça. Et il y avait des rumeurs parmi les collégiens, comme quoi un homme était passé par la fenêtre. Enfin, voilà, c'était la veille des vacances. Donc, ils étaient petits. Donc, ils ont été chargés de tout ça. Et puis après, du coup, moi, j'avais organisé une rencontre au collège avec des enseignants après l'évacuation et certains des Afghans, justement, pour que les enfants puissent parler avec ces hommes-là, de ce qu'ils avaient vécu. Que la parole un peu circule. Donc ça avait été un moment. Après l'évacuation, il y a eu un moment où il m'a dit quand même que ça avait été pas simple pour lui et pour son frère aîné. Et il a dit, on avait l'impression que tu aimais les Afghans plus que nous. Ce qui disait sans doute quelque chose du fait que j'ai été embarquée dans cette histoire d'une manière qui peut-être a été un peu étrange pour eux aussi. Chapeau à lui d'avoir supporté cet épisode.